Aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'une personnalité tchèque, mais de tout un groupe de gens sur lesquels la réalisatrice française Ruth Zilbermann a tourné un documentaire. Son titre est suffisamment éloquent, « Dissident, les artisans de la liberté ». Le film évoque, à travers des images d'époque et des témoignages recueillis 20 ans après la chute du mur de Berlin, le mouvement d'opposition contre le régime communiste dans trois pays, à savoir en Tchécoslovaquie, en Pologne et en Hongrie. Même s'il n'apparaît pas dans le film, puisqu'il n'était pas disponible au moment du tournage à Prague, l'ancien président et figure majeure de la dissidence tchécoslovaque, Václav Havel, y est quand même bien présent. L'émission vous est proposée par Magdalena Rosinkova.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Quelques mois avant la chute du mur de Berlin, une clairière au fond des bois, à la frontière de la Pologne et de la Tchécoslovaquie. Une rencontre clandestine qui rassemble des opposants tchécoslovaques et polonais en lutte contre les régimes communistes au pouvoir dans leur pays. Ils se retrouvent, malgré les frontières étroitement surveillées, malgré les polices secrètes qui veillent. Ces conspirateurs de la démocratie, on les appelait dissidents.
C'est par les images tournées et par une photo prise lors de cette rencontre clandestine dans les monts des géants en tchèque Krkonoše que commence le documentaire de Ruth Zilbermann intitulé « Dissidents, les artisans de la liberté ».
Ce film, ça fait très longtemps que je veux le faire et ça fait plusieurs années parce que c'est pas facile d'imposer à la télévision française de parler de l'Europe centrale. Donc j'ai essayé de le faire pendant longtemps et au départ, je voulais évoquer cette histoire de la dissidence, mais je connaissais pas encore l'existence de la photo. Ensuite, j'ai lu un article d'Adam Michnik qui parlait du départ de Václav Havel de la présidence de la République, et son article est illustré par cette photo, et bien entendu, ça s'est imposé à moi comme une évidence. Il faut faire le film à partir de cette photo. Et donc ça, c'était bien avant même la mise en production du film. Donc la photo était là dès le départ. Et pendant les repérages, Anna Chabatova m'a montré un film vidéo qui avait été tourné par le Vidéojournal de cette rencontre. Et bien entendu, voilà, ça c'était quelque chose de merveilleux pour moi de me dire que cette photo pouvait être relayée par ce film d'archives en couleur, extrêmement émouvant. Et donc, oui, j'ai tourné le film en ayant à l'esprit que d'une part la photo, cette photo noir et blanc, et d'autre part ce film en couleur, des couleurs un petit peu baveuses comme on en tournait dans la vidéo comme ça des années 80, allait être bien entendu le fil rouge du film. C'était un a priori de construction en somme.
Comment avez-vous en fait choisi vos interlocuteurs dans les trois pays ?
D'une part, il y a des gens qui sont présents sur la photo. Et ensuite, je savais qu'il y avait des personnes qui étaient présentes sur la photo, comme Jacek Couronne qui est mort, etc., que je les évoquerais uniquement en archives. Et j'ai aussi choisi, il y a par exemple, dans le film, on évoque la Hongrie, il n'y a pas de Hongrois sur la photo, mais pour moi, la photo était un symbole, c'est-à-dire que, bien entendu, je voulais qu'il y ait des gens de la photo, mais je savais que j'aurais besoin de personnes qui n'y figuraient pas, mais qui étaient symboliquement là, finalement, pour tenter malgré tout d'évoquer, sans pouvoir parvenir à l'exhaustivité bien entendu, mais malgré tout je voulais quelque chose d'assez représentatif de ce qu'avait pu être la dissidence dans ces trois pays. Donc il y a par exemple deux Hongrois, Laszlo Rajk et Miklós Harasti, qui ne figurent pas sur cette photo. Il y a Karol Modzelewski, qui est un Polonais, qui était avec Jacek Couronne une des personnalités fondatrices de l'opposition polonaise, qui n'est pas sur la photo, mais je savais d'emblée, bien entendu, qui figurerait dans le film.
Dans le film apparaît côté tchécoslovaque Petr Hůl, son épouse Anna Chabatová et son beau-père Jaroslav Chabata, les trois étant très actifs au sein du mouvement de la Charte 77. Petr Hůl, 69 ans, a passé au total 9 ans dans les prisons communistes. Après la chute du régime, il a continué à s'engager dans la vie politique et publique. Petr Hůl et Anna Shabatova ont assisté, aux côtés de Václav Havel ou du prêtre Václav Mali, à la rencontre des opposants tchèques et polonais dans les Monts des Géants. Comment ces rencontres secrètes étaient-elles organisées, Petr Hůl?
La bureaucratie soviétique, et bien sûr celle de Prague, de Varsovie, de Budapest, c'est ainsi de suite, a fait tout pour nous diviser, pour que le développement contestataire ou de protestation, etc., ne soit pas harmonisé, ne soit pas coordonné. Et c'est pourquoi nous étions fermés dans nos pays, mais déjà de la Tchécoslovaquie, mais surtout de la Pologne et de la Hongrie, les oppositionnels, ou plutôt les gens qui étaient indépendants, pouvaient plus facilement sortir à l'ouest que dans les pays voisins. Et c'est pourquoi nous avons fait tout pour nous rencontrer, par exemple, à la frontière, dans les montagnes. On a envoyé les envoyés spéciaux, si je peux le dire comme ça, qui avaient les passeports ou la possibilité de partir. Et nous avons fait tout pour coordonner nos activités.
Et je voudrais savoir comment ça s'est passé techniquement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de portable.
Oui.
Vous étiez suivi par la police secrète. Comment vous êtes arrivé à rester en contact, à organiser ces rencontres, comme
oui.
par exemple à la montagne?
C'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui, bien sûr. Il a fallu envoyer quelqu'un en Pologne. Nous avons eu des contacts avec les Polonais qui vivaient à Prague et qui sont allés chez eux, et ils ont fixé, disons, avec ils ont parlé avec nos amis polonais, par exemple à Wrocław. Wrocław, c'est Breslau, Breslau, Bratislava en tchèque. C'est une grande ville, 1,5 million d'habitants en Silésie, et de là-bas on a fixé les dates, les lieux, etc. Les Polonais, nos amis polonais, ont eu parmi eux aussi les guides de montagne, par exemple, des monts des géants, et qui l'ont préparé.
Peut-on distinguer les différences entre les mouvements d'opposition anticommuniste dans les trois pays en question, Ruth Zilberman?
Déjà, c'est une distinction numérique. C'est-à-dire que, évidemment, en plus, c'était vraiment dans des contextes politiques malgré tout un petit peu différents. Mais enfin, ce qui est flagrant, c'est bien entendu qu'en Pologne, ça a eu une ampleur. Il y a eu une vraie création d'une Pologne parallèle, ce qui n'a jamais été le cas ni en Hongrie, ni surtout en Tchécoslovaquie, où vraiment la question numérique de la dissidence, c'est-à-dire la dissidence, c'était un... Alors on lui a reproché d'être un ghetto d'intellectuels de 200 personnes. Donc c'est sûr qu'elle n'a jamais été en lien avec la société civile comme ça a pu l'être en Pologne. Par ailleurs, en Pologne, c'était évidemment aussi soutenu par une opposition naturelle qui était l'opposition catholique. Voilà, ça je pense que c'est la grande distinction entre une opposition qui a des ramifications dans la société civile de façon extrêmement profonde et une dissidence qu'on a pu qualifier de ghetto et qui reste finalement cloîtrée à quelques centaines d'intellectuels. Voilà, mais donc ça c'est à mon avis la principale distinction. Sinon, j'ai quand même le sentiment que... Enfin, c'est pas simplement mon sentiment d'ailleurs, mais que, comme je vous le disais au début, il y a un vrai lien intellectuel entre ces trois dissidences, entre Michnik, Havel et Arasti. Il y a donc polonais, tchécoslovaque et hongrois. Il y a un vrai lien. Il y a les mêmes types de références qui peuvent circuler d'un pays à l'autre.
Vous avez tourné à Prague, à Budapest, à Varsovie. Est-ce que l'ambiance lors du tournage a changé d'un pays à l'autre?
Oui, c'était différent. C'est-à-dire que moi, j'étais différente. Parce que, par exemple, Prague, je connaissais mieux. J'étais déjà venue. Je connaissais bien la République tchèque. Donc évidemment, je m'attendais plus à un certain nombre de choses, alors que la Pologne, j'étais jamais allée avant. Et c'est vrai que ça a été pour moi des rencontres très très fortes, très émotionnelles. Et puis je pense aussi que, puis il y a peut-être, mais enfin ça c'est des généralisations, mais il y a peut-être des caractères nationaux. J'ai eu l'impression qu'en Pologne, les choses étaient peut-être un petit peu plus vivantes, alors qu'à Prague, bon, il y a quelque chose de plus calme dans l'évocation de cette histoire. J'ai été frappée, c'est vrai que ça a été particulièrement intense en Pologne pour moi. Les rencontres ont été très fortes, très intenses, parce que j'ai l'impression que peut-être est-ce lié au fait qu'en Pologne, malgré tout, le mouvement de la dissidence a été ensuite relayé par un mouvement beaucoup plus populaire, incarné par Solidarność. Mais par exemple, la première fois que je suis arrivée en Pologne pour des repérages, c'était le jour de l'enterrement de Bronisław Geremek qui venait de mourir dans un accident de voiture. C'était le jour de ses funérailles. J'ai rencontré à cette occasion une ou deux personnes qui interviennent dans le film. Et c'est vrai que tout était presque à l'état, voilà, il y avait quelque chose d'extrêmement à vif, d'extrêmement émotionnel de cette histoire qui est, voilà, j'ai l'impression qu'en République tchèque, il y a quelque chose peut-être de plus, c'est peut-être plus relégué dans les couloirs du passé qu'en Pologne.